hommage à Resident Evil.
Cours!
Ils vont nous attraper!
Prenez ça, sale zombie!
Vite, entrons là-dedans! Nous serons tranquilles ici.
Mais pour combien de temps?
Il te reste des munitions?
Il ne reste que 6 balles et un cocktail Molotov. Et toi?
Plus rien depuis l'attaque à Chac à Patate.
Il faut se planquer quelque... T'as entendu ça?
Ça venait de cette porte.
Ouvre-la tranquillement.
Ah! Ça n'était qu'un chat.
Quelle folie! Et dire que tout ça avait commencé par une simple grippe.
Si seulement les gens s'étaient tous fait vacciner dès le début.
Réveille en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 55.
Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll keep your stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time
à tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Alors bonjour, messieurs, dames et les autres, et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'actualité ludique. En votre compagnie, François Gécouillard et toute l'équipe de Puissance Maximale.
Presque toute l'équipe.
Guillaume Forain.
Oui.
Christian Lacroix.
Oui, à la place de Vincent, peut-être.
Un revenant.
Anne aussi.
Qui va faire, salut tout le monde.
Qui a fait des voix tantôt. Alors, commençons. On parle toujours de jeux, évidemment. Jeux tous azimuts, jeux toutes couleurs, tous horizons confondus. On va parler de quoi aujourd'hui?
Ben moi, aujourd'hui, j'ai une surprise, une entrevue spéciale live dans les studios en direct avec Yann, qui, dans le fond, est le créateur d'une bande dessinée sur le web, Drill Tales ou Drill Tales, tout dépendant comment les bons Québécois ou même les anglophones le prononcent, et on pourra savoir tout sur ce webcomic dans la prochaine heure.
Christian?
Oui, moi je vais parler du jour jeu, donc à l'Apocatière, qui s'est tenu en fin de semaine dernière. Et si on a le temps, on va voir. Peut-être, ça fait tellement longtemps que donc j'ai essayé des nouveaux jeux, alors on va voir selon le temps que j'ai.
Des jours jeux, hein, la première édition de cet événement de jeux de plateau.
Oui. Très bien, en un mot, là, excellent.
Et on va avoir aussi une chronique de Gabriel Tremblay-Gaudette du NT2, chercheur au NT2, qui va parler d'un jeu qui s'appelle Small Worlds. Et on va avoir aussi une entrevue que Vincent Langlois a fait la semaine dernière, en tout cas, à la Fiesta Ludique, voilà, à Montréal, avec Christian Côté, si je ne m'abuse, et finalement, on va avoir un peu d'actualité ludique. Alors, commençons évidemment tout de suite en musique. Ça va être une pièce de Ex-Tradition. Et c'est important, ce groupe-là, d'en passer de leur musique, parce que, vous savez quoi? Ce groupe-là a été fondé en plein milieu d'un grandeur nature.
Ça peut juste être bon.
Donc, fatalement, ça peut juste être bon. Et ils vont faire justement une pièce qui s'appelle Cyberdépendance. Et je pense que ça fit très bien. Et ils sont aussi partisans du Parti Pirate, le parti qui favorise le libre-échange des fichiers, des droits d'auteur. Là, un nouveau parti fédéral qui vient d'apparaître. Alors, voilà, Extradition, un groupe de Montréal. Vous êtes à Puissance Maximale.
assis devant mon ordinateur.
Assis devant mon ordinateur.
À rechercher du bonheur.
À rechercher du bonheur.
Le jour, le soir, à n'importe quelle heure. Et dire qu'il y en a qui pensent que je souffre de cyberdépendance.
Et dire qu'il y en a qui pensent que je souffre de cyberdépendance.
J'chatte avec l'autre chauffeur.
J'ai rencontré sur Messenger.
Je comprends juste pas pourquoi Claudia reste à Kitchener. Pis dire qu'il y en a qui pensent que je suis de cyberdépendance.
Pis dire qu'il y en a qui pensent que je suis de cyberdépendance.
Je me nourris au crabe des nœuds.
Je me nourris au crabe des nœuds.
Que j'achète au dépanneur.
Que j'achète au dépanneur.
M'en me le fait cuire tout à l'heure. Mais que je rebouche mon ordinateur. Pis dire qu'il y en a qui pensent que je suis de cyberdépendance. Ma blonde, elle me traite de loser.
Ma blonde, elle me traite de loser.
Elle me dit, lave-toi et tu m'écœures.
Elle me dit, lave-toi et tu m'écœures.
C'est là que la voisine est partie ailleurs à cause de ton odeur de sueur. Il dit qu'il y en a qui pensent que je souffre de cyberdépendance. Je suis devenu l'administrateur.
Sur le canal accroche-cœur.
La femme m'a pogné en boxeur. En train de frencher mon moniteur.
Et nous,
pis dire qu'il y en a qui pensent que je souffre de cyberdépendance. Pis dire qu'il y en a qui pensent que je souffre de cyberdépendance. Pis dire qu'il y en a qui pensent que je souffre de cyberdépendance. Pis dire qu'il y en a qui pensent que je souffre de cyberdépendance.
Excusez-moi!
Oui,
oui, vraiment. Okay, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale.
Mon petit bébé d'amour.
De retour à Puissance Maximale et nous avons en ligne en ce moment même, en direct de Montréal, Gabriel Tremblay-Gaudette qui est chercheur au NT2. Alors, bonjour Gabriel.
Bonjour.
Le NT2 qui, la mission du NT2, c'est de promouvoir l'étude, la création et l'archivage de nouvelles formes d'œuvres hypermédiatiques. Donc, dis-moi, tu viens nous parler d'un jeu aujourd'hui, Small Worlds.
Oui, en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais parler de Small Worlds pour une raison précise, c'est que ça va me permettre d'aborder un concept dans les théories du jeu vidéo qui s'appelle le design de second ordre.
Qu'est-ce que c'est ça?
OK. En fait, on va commencer par expliquer des principes de base de construction d'un jeu vidéo. Pour commencer, ce qu'on appelle le gameplay, dans la définition du gameplay qui est donnée dans un essai qui s'appelle « Understanding Video Game », c'est les dynamiques de jeu émergeant d'un croisement entre les règles d'un jeu et la géographie de l'univers de jeu. Donc, le but d'un jeu, en fait, pour qu'un jeu soit réussi, il faut que le gameplay soit intéressant. Et pour que, donc, il y a d'autres chercheurs qui s'appellent Katie Salen et Eric Zimmerman, ont spécifié ça en disant l'objectif d'un bon game design est la création d'un jeu sensé. C'est une traduction, grosso modo, de « meaningful play ». Puis là, il ne faut pas comprendre le « meaningful play » ou le jeu sensé comme un jeu dont on peut extraire du sens, comme quand on interprète un film ou quoi que ce soit, mais plutôt un jeu dont les objectifs sont précis et les conditions de réussite sont compréhensibles et identifiables facilement par un joueur. Donc, par exemple, si on commence à... Il faut, quand on joue à un jeu vidéo, qu'on comprenne rapidement comment on fait pour gagner, de quelle manière on peut s'y prendre, qu'est-ce qui est interdit de faire.
Donc, le surréalisme et peut-être des trucs plus abstraits, ça n'a pas vraiment sa place dans un jeu vidéo, ça veut dire?
Bien, de la manière dont on l'enseigne en théorie et de la manière dont, disons, les compagnies de jeu veulent produire leur jeu, on essaye d'éviter ça parce qu'on veut que le joueur ait une expérience satisfaisante. Parce que, en fait, le but du design, c'est un processus par lequel un designer peut créer un contexte qui va être soumis aux participants dans lequel un sens va émerger. Fait que si on fait du non-sens comme du surréalisme, ça va poser problème. Tu sais, même des jeux qui avaient une approche plus absurde, comme, je sais pas, moi, je me souviens de Earthworm Jim quand j'étais jeune. C'était complètement débile, on tirait sur des vaches qui revolaient dans les airs, mais on comprenait quand même qu'on avait une arme, il fallait tirer. Il y avait des murs, donc le design fonctionnait.
Mais t'es-tu en train de nous dire que le jeu Small World, c'est un jeu qui fait pas de sens?
En fait, c'est un jeu qui fait juste détourner les... qui veut procurer une expérience particulière. Parce que, regarde, il y a trois paramètres à comprendre pour établir comment est-ce qu'un game design fonctionne. Il y a les règles du jeu, c'est-à-dire les paramètres spécifiques et contraignent l'expérience du joueur, ce qui fait en sorte qu'on peut avoir un degré de difficulté dans un jeu. Il y a l'interactivité, c'est-à-dire ce qu'on peut faire et ne pas faire dépendant des règlements et en contrôlant son personnage dans un univers donné. Et aussi le scénario, qui, quand il, même s'il est très maigre ou s'il est très complexe, nous permet de comprendre qu'est-ce qu'on va faire. Quand un scénario est bien fait, par exemple, ça peut faire en sorte que si on joue à Halo ou à Metal Gear Solid, on s'identifie un peu plus à son personnage parce qu'on sait qu'est-ce qu'il est en train de faire par rapport à dans Doom. On apparaît en enfer, on se fait dire qu'on est un Marines, voici un shotgun, bonne chance, défends-toi. Fait que quand un jeu propose des règlements qui sont précis ou qui sont bien ajustés pour créer un bon degré de difficulté, qu'il y a une interactivité qui est intéressante parce qu'on a des possibilités d'action multipliées et qu'il y a un bon scénario, ça fait un jeu solide. Les jeux sont réussis parce que le jeu procure un plaisir que j'appellerais ludique. Le plaisir ludique, c'est accomplir l'objectif de jeu, déterminé en fonction du scénario, par le biais d'une interactivité à l'intérieur des règlements. OK, je sais, tout ça, ça peut avoir l'air un peu rough, mais je vais expliquer en donnant l'exemple de Small World en quoi ça peut être réussi ou pas. Donc, par exemple, si on considère le jeu Small World. Small World, c'est un jeu qui a été créé par un certain David Shull pour un concours de jeux vidéo dont le thème était explorer. Fait que le jeu, en gros, quand tu rentres dans le jeu, ce qui apparaît à l'écran, c'est des pixels. T'es une espèce de petit bonhomme qui ressemble à rien, qui se déplace dans un univers là, avec une vue latérale de gauche à droite.
C'est ça, c'est un décor très, très pixelisé avec des pixels très gros.
Oui. Et en fait, plus on se déplace dans le tableau, plus il y a comme un mouvement de zoom out qui fait en sorte qu'on voit de plus en plus du tableau. Si on regarde le jeu... Si on regarde le jeu d'un point de vue des trois éléments que j'ai donnés, scénario, interactivité et règlement, il n'y a à peu près pas de scénario. Quand on commence, il est marqué « There is too much noise », il y a trop de bruit, ça nous apprend strictement rien. Le personnage ressemble à rien. Et on comprend maintenant en jouant qu'il faut ramasser des petits blocs de cristal, tout ça, on sait absolument pas pourquoi. Fait qu'il n'y a pas d'intérêt vraiment là, narratif comme on en a dans d'autres jeux. Les règlements, à part un principe de physique comme... on tombe si on va dans le vide et on peut pas passer au travers des murs. Il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de défi parce qu'on peut pas mourir, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de jauge de temps, rien. Puis l'interactivité aussi est très, très plate parce que les mouvements du personnage sont très limités puis il n'y a pas de possibilité de faire des super moves, de se battre avec des ennemis, d'avoir des level-up, rien de ça.
C'est ça, on se résume à gauche-droite, monter, sauter.
Oui, exactement. Fait que ça fait un jeu qui, d'un point de vue ludique, est carrément nul. On est d'accord, tu l'as essayé, puis sûrement que quand tu l'as essayé, tu t'es dit « Mon Dieu, c'est quoi cette cochonnerie-là? Je vais pas jouer à ça plus que 2 minutes. »
C'est ça, j'ai joué à 5 minutes. En fait, j'ai pas pu jouer longtemps parce que j'étais au travail, là, mais bon, j'ai remarqué effectivement que c'est un jeu assez simple.
Ben, en fait, c'est là que, pour comprendre l'intérêt du jeu, il faut comprendre c'est quoi le design de second ordre. Je vais donner une définition très théorique pour commencer, puis après ça, je vais expliquer ce que je veux dire. L'objectif d'un game design, d'un design de second ordre, c'est de provoquer une expérience de jeu particulière chez le joueur. Puis par expérience, il faut plus comprendre comme une expérience émotive ou esthétique, une réaction particulière qui n'est pas juste le plaisir de tirer sur des monstres ou de compter plus de points que l'équipe adverse. C'est un défi qu'il y a, en fait, dans toutes les formes d'art, parce que un auteur de roman policier veut qu'on fasse l'enquête avec l'enquêteur, un documentaire politique de Michael Moore veut qu'on devienne indigné contre George Bush, puis un film d'horreur veut nous faire peur. Puis on utilise des procédés de style pour ça. Mais dans le cas du design de jeux vidéo, il y a un contrôle plus grand que les autres types d'artistes, parce que le designer construit la manière dont le joueur va interagir avec le jeu. Fait que c'est en travaillant avec les paramètres de narrativité, interactivité et règlement que le designer peut t'amener à considérer un aspect particulier. Fait que dans le cas de Small World, ce que l'auteur a décidé, c'est je vais pas te donner d'histoire, je vais pas te donner de possibilité de mourir ou de défis à relever, et je vais te donner très peu de mouvements à faire. Fait que tout ce qui reste comme intérêt dans le jeu, c'est explorer. Et c'est donc c'est ta seule thème. Et comme tu l'as décrit, en fait, le jeu, c'est des gros pixels, mais plus on avance dans le jeu, plus l'image, plus ça recule, donc moins ça paraît que c'est des pixels, plus ça forme une image qui, pour les gens qui ont commencé à jouer aux vidéos jeunes, les pixels, ça nous dérange moins que les jeunes joueurs, et ça finit par créer des tableaux qui sont assez jolis, en fait. Et donc, vu que tout ce qu'on a à faire, c'est explorer, on commence à se promener, et là, notre but, c'est d'enlever tout le noir qu'il y a dans l'écran pour qu'on puisse découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière, pour faire une belle image du tableau, et ajouter à ça, en fait, qu'il y a la trame sonore est assez réussie, comme la musique classique, là, des fois un petit peu inquiétante, des fois plus long. On a l'impression de musique de Walt Disney, mais ça crée une expérience de jeu dont l'intérêt, donc, c'est plus de gagner, mais d'explorer.
Explorer. C'est ça, Gabriel, dans le fond, ce que tu t'arrêtes de dire, c'est que c'est un jeu qui, au début, a pas l'air de faire beaucoup de sens, mais qu'à force de jouer, finalement, on crée une sorte de sens.
Oui, c'est ça. Puis j'ai testé auprès de mon entourage, j'ai dit aux gens de jouer, puis j'ai dit surtout, décourage-toi pas au bout de 5-10 minutes. Et la plupart des gens, ce qu'ils ont fini par me dire, c'est, je sais pas pourquoi, mais je me suis mis à trouver que le jeu, il était plus beau que ce que je pensais. Puis je me suis mis à, tu sais, même si j'avais sauté par-dessus un trou, je voulais tomber dedans pour qu'il n'y ait plus de noir pour voir toute l'image. Fait que c'est ça le design de Second Ordre, en fait, c'est... jouer sur les paramètres. Là, ce qu'on fait dans le cas de ce jeu-là, c'est qu'on réduit les paramètres normaux du design de jeu au minimum pour que l'intérêt du joueur rapidement devienne autre chose que juste gagner. Puis c'est une manière de donner une autre expérience au joueur que celle à laquelle il est habitué.
Celle traditionnelle. Donc le jeu de Second Ordre, voilà un nouveau complexe, un nouveau concept de jeu vidéo expliqué par Gabriel Tremblay-Gaudette. Excuse-moi, le temps file, Gabriel, il va falloir se laisser là-dessus. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur ce jeu Small Worlds?
En fait, maintenant que je vous ai expliqué le jeu, ça va peut-être être moins intéressant, mais je pense que la morale de cette histoire, c'est l'important n'est pas de gagner, mais d'essayer de jouer.
C'est un excellent principe qui s'applique à tous les jeux. Alors, Gabriel Tremblay-Gaudette, je te remercie beaucoup. Les gens qui veulent essayer ce jeu-là, ils peuvent aller sur jisgames.com, mais de toute façon, je vais mettre le lien sur le site Internet. C'est un lien un peu compliqué. Alors voilà, puissancemaximale.com, c'est toujours plus simple. Merci, Gabriel, du NT2.
C'est moi qui te remercie. À la prochaine.
À la prochaine. Donc, un nouveau concept. Le jeu, c'est sérieux, hein?
Très sérieux, mais c'est dans le but de s'amuser.
Exactement.
C'est ça qui compte.
Finalement, on revient toujours à la ludicité. Alors, on va écouter maintenant une pièce musicale, une petite pause pour digérer tout ça, et on vient tout de suite après avec nos invités de Draw Tales. Alors, vous êtes à puissance maximale, on va écouter une pièce de Musax.info, Yannick et Cap-Marty, nos amis des Français, on les salue, et c'est de la musique des jeux vidéo. Alors, vous êtes à puissance maximale.
La série Castlevania s'inspire du thème des vampires. Tous les 100 ans, la famille Belmont doit affronter le terrible Dracula.
We'll be right back. Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale.
De retour à Puissance Maximale. Et maintenant, nous sommes en compagnie des gens de Drow Tales.
De Drow Tales. C'est sûr, certain qu'au Québec, on a tendance à dire Drow ou Drow. La bonne prononciation, c'est Drow, si je me trompe
exact.
Pas. Mais bon, avec même aux États-Unis, au Canada, en anglais, peu importe, on a tendance à dire Drow, même si c'est pas la bonne prononciation. C'est un petit défaut qu'on a à propos de ça.
Les Drow qui sont des elfes noirs.
Les elfes noirs, dans le fond, qu'on a connus grâce à Donjons Dragons, qui sont rendus une race aimée ou pas aimée, tout dépendant. Et j'ai avec moi la personne qui a parti le webcomic qui s'appelle Drow Tales, Yann, qui va pouvoir nous parler un petit peu de dans le fond, ce webcomic-là. Première des choses, bienvenue à Puissance Maximale.
Merci, bonsoir.
Première question. Ça existe depuis quand? Depuis quand que c'est rendu un comic sur le web?
Ça a commencé le 17 avril 2001, donc ça fait plus de 8 ans.
Ça fait plus de 8 ans. Donc 8 ans quand même pour un webcomic, c'est pas tout le monde qui est capable de durer la run. 8 ans de comic continuel, c'est quand même assez long.
Oui, en effet, quand t'es rendu à ce point-là, c'est que ça va bien.
Ça va bien. Dans ton cas, à toi, tu sens dévoiler des chiffres, parce que c'est sûr certain que c'est pas tout le monde qui va le dire, mais on parle de combien de personnes par soit jour ou par mois qui peuvent venir, juste pour donner un ordre d'idée générale de comment que ça peut être populaire.
Bien, déjà là, selon les années, après autant d'années, on bâtit une espèce d'audience, mm-hmm. mais c'est pas dire que tout le monde va venir à chaque journée.
Effectivement.
Il y a des gens qui vont venir pour les histoires qui s'intéressent le plus, ou de certaines dates du mois. Donc, si j'ai un nouveau chapitre, mes lecteurs peuvent tripler, quadrupler, voire 10 fois le nombre de lecteurs habituels dans la même journée.
À partir du moment qu'il y a un nouveau chapitre.
Oui, juste la couverture. C'est suffisant pour que les gens reviennent voir c'est quoi et voir s'ils sont intéressés. Ils sont intéressés, ça va quand même redescendre, mais ça va rester plus élevé qu'un chapitre qui va moins les intéresser.
OK, donc il y a quand même des gens régulièrement qui vont voir sur le site à tous les jours, tous les 2-3 jours. Puis dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sorti, là, à ce moment-là, il y a beaucoup oui. plus de gens qui rentrent à ce moment-là pour venir voir justement qu'est-ce qui se passe.
D'ailleurs, durant les anniversaires de Drow Tales, c'est que normalement on a spécial, que ce soit des animations ou des bonus, ça peut être des records normalement. On peut tomber dans les millions dans la même journée.
Des millions, donc c'est quand même beaucoup de gens là, qui viennent voir. C'est sûr, certain qu'il y a plusieurs gens qui vont venir plusieurs fois sur le site, mais est-ce qu'on parle de gens uniques ou est-ce que ça peut être plusieurs fois la même personne qui revient sur le site web?
Unique, dans le plus haut que j'ai vu, je pense que c'était 200 000.
200 000, donc c'est quand même assez élevé, surtout pour quelque chose sur Internet. Ça veut dire que ça roule bien, là, parce que quantité de personnes-là, moi je connais beaucoup de sites web qui fonctionnent bien, mais qui n'ont pas autant de gens qui vont dessus. Donc si on parle de 200 000 personnes, c'est quand même assez élevé.
Mais pour pas donner une mauvaise impression, ça c'est durant le top.
Durant le top.
Je peux avoir des bas, ça peut descendre jusqu'à 20 000, 15 000. Ça, c'est, quand je vois 15 000, c'est que ça va mal. Ils sont pas intéressés par le chapitre en tant que tel. C'est le temps de mettre quelque chose de nouveau.
De renouveler avec quelque chose. Mais c'est quand même, même à 10 000, 15 000, 20 000 personnes, c'est quand même quelque chose. Pour François même, qui s'occupe du site web de Puissance Maximale, des chiffres comme ça,
ouais,
il y a beaucoup de gens qui ont des sites web qui aimeraient ça, avoir autant que ça. Mais pour en avoir autant, c'est-à-dire que ça fonctionne. Toi, t'es quelqu'un qui tu gagnes ta vie finalement avec ça. Là, c'est pas quelque chose que tu fais un sideline, que tu travailles ta job, un autre job, puis tu reviens le soir, tu fais ça. C'est vraiment tu gagnes ta vie avec ça tellement que c'est populaire que les gens dans le fond accrochent sur qu'est-ce que tu fais.
En effet, c'est une compagnie depuis novembre 2005.
Et c'est quel genre de revenus? C'est les revenus publicitaires ou c'est les revenus de marchandises? C'est quoi exactement?
Publicité, ça fait rien du tout. Le petit peu d'argent que je fais avec la publicité, je le remets dans l'agence publicité pour en recevoir. Marchandises, j'en vends très peu. On a commencé avec des livres imprimés à Transcontinental à Québec. Mais encore là, c'est des pertes, ça. Parce qu'il faut imprimer 1250 copies minimum, ce qui revient à un très gros montant d'argent, et on ne vend pas autant que ça. Donc, c'est juste pour atteindre une nouvelle audience. Arriver dans les magasins, les gens prennent ça pour au sérieux et atteindre des gens que normalement, qui ne verraient pas sur Internet normalement. Donc, je vois ça comme une dépense publicitaire de mon côté.
Bref. Mais finalement, qu'est-ce qui est payant? Finalement,
c'est qu'est-ce qui est payant? Oui, c'est... Oui, désolé, je suis pas en train de penser. C'est les accès au site web.
Ah,
il y a une bande dessinée principale qui est gratuite, ce qui attire les gens vers le site, qui est fait venir à chaque journée. Très important d'avoir une mise à jour par journée. Justement pour développer cette dépendance de venir à chaque matin, regarder voir la nouvelle page. Et les sections payantes, si les gens en veulent plus, ils peuvent venir participer. On a une section qui est plus pour adultes, qui est le plus populaire, bien sûr. Les gens paient un certain montant chaque mois pour avoir accès et ça donne un accès à l'interactivité du site. Ils choisissent qu'est-ce qu'ils veulent qui va se passer à chaque semaine dans toutes les histoires. Donc, ils disent tel personnage va faire telle chose et telle chose, on va le dessiner. Ce qui fait un... C'est plus compliqué que faire une bande dessinée régulière vu qu'on doit donner ce que le lecteur veut à chaque semaine.
C'est ça, t'as une interactivité directe avec les gens qui viennent voir, les spectateurs, si on veut, là, les lecteurs, en fait.
Oui, c'est eux qui choisissent les idées, ceux qui votent pour. Et bref, c'est ça qui paie pour, en gros, c'est l'interactivité. Pour les deux autres sections, c'est la même chose. On a la deuxième section qui est Pato Power, qui est une section coopérative. Présentement, il y a 300 personnes. Ils sont tous d'un même groupe de gens et qui essaient de faire un but ensemble, un but continuel qui va d'année en année en année. Ils ont leur rang. Il y a certains qui vont des forgerons, qui vont des ambassadeurs, des guerriers, etc.
Un petit peu comme un jeu de rôle en ligne, dans le fond, où est-ce qu'on décide que les actions qu'on fait...
Exact. Et nous, on convertit ça en bande dessinée et en statistiques. Et on donne les forums communautaires et Shortbox, ceux qui peuvent interagir et donc développer leur communauté et avancer. On a le troisième section payante, qui est un jeu de rôle plus traditionnel, comme tu dis, où on prend leur session du roleplay, qui est juste 8 personnes, et on le dessine. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a très peu de règles pour ça, contrairement à Pato Power, où on le met des défis. Et s'ils échouent le défi, ça peut être un game over. Ils peuvent pas tout perdre. Mais Relic Hunter, c'est plus léger. Mais c'est, notre profit vient pas de là, justement, parce qu'on est limité à 8 personnes par bande dessinée.
Mais dans le fond, qu'est-ce qui permet de survivre, c'est que tu donnes aux lecteurs qu'est-ce qu'ils veulent. Dans le fond, il y a une demande pour quelque chose, tu regardes avec eux, et selon qu'est-ce qu'eux veulent, mais à ce moment-là, tu leur donnes un produit qu'ils désirent à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que certaines compagnies, des fois, ne comprennent pas non plus. Puis ça, c'est réellement un plus, un site web ou n'importe quelle compagnie qui donne qu'est-ce que les gens veulent et non font à leur tête. C'est quand même, c'est pas fréquent partout. Puis ça semble bien fonctionner pour vous autres. Mais, dis-moi, c'est d'où vient l'inspiration du webcomic? Ça a dû partir de quelque part? C'est quoi qui est l'idée des draws? C'est sorti de où? De jeux de rôle? De livres?
Et une petite note sur le commentaire que tu as fait. Oui? C'est impossible de plaire à tout le monde.
Ça, c'est sûr et certain. On peut pas plaire à tout le monde. On tente le plus possible, mais on peut pas plaire à tout le monde, effectivement. Peu importe c'est quoi le milieu, c'est impossible de réussir.
Pour revenir à la question, qu'est-ce qui inspirait ça? Bien, avant de Walter, j'avais un site d'animé. J'avais commencé à rentrer là-dedans, regarder les ennemis du Japon, des trucs comme Lord of the Sword qui m'avait inspiré à commencer à dessiner.
Lord of the Sword.
Mm-hmm. C'est un classique d'animé, justement.
Et à un moment donné, je me suis dit, en regardant les webcomics et un site internet, que je pourrais peut-être en commencer un moi-même. Et donc, je me suis assis un jour, j'ai essayé de dessiner une page basée sur nos sessions de roleplay. Je dirais Donjons & Dragons, mais c'est pas exactement Donjons & Dragons parce que c'est sans règles. Okay. C'est juste, on s'assit. Il n'y a pas de dés, il n'y a rien. On fait du roleplay.
Ah ouais?
J'ai pris ça et j'ai commencé une bande dessinée non sérieuse jusqu'à ce que j'étais rentré dans mon collège. Donc mes études ont commencé en même temps. Juste pour m'amuser durant le soir, je mettais une page des fois et c'était pas très sérieux. Mais une fois les études finies, il n'y a pas de job en programmation. Il fallait payer les dettes d'études.
Et les dettes d'études, oui.
Et donc j'ai commencé la section Daydream. J'ai demandé les gens de payer. Et quand le job est finalement arrivé pour programmeur, fait quand j'ai décliné et je suis resté avec la bande dessinée.
Bravo,
et j'ai jamais regretté.
Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu étais illustrateur avant de commencer ou pas du tout?
J'ai commencé un an avant de commencer webcomic à dessiner et c'était pas très beau. Même début de bande dessinée, c'était assez affreux. Mais j'avais assez développé durant cette première année-là l'utilisation des outils digitaux que quand je suis arrivé en stage de programmation, pas fait de programmation, il me mettait en face de Photoshop et dit « fais des trucs de graphiste ».
T'étais trop bon là-dedans comparé à ton emploi que t'as étudié pour.
Oui.
Ça, c'est souvent qu'est-ce qui arrive en informatique. On a tout plein de sidelines, puis on est meilleur un petit peu dans quelque chose que quelqu'un d'autre, puis on dirait qu'on fait ça à la place.
Mais je continue à payer mes dettes d'études pour l'étude de programmation. Même moi maintenant, 8 ans après.
Ouf, ça, c'est... Ouais, c'est toujours les joies de cégep et université et autres de payer les cours.
Les fameuses dettes.
Effectivement. Mais dis-moi, ton inspiration pour, le comic gratuit, il y a une histoire qui suit, il y a des personnages, il y a l'histoire du monde, les scripts, tout ça, c'est d'où vient toute l'inspiration? T'es pas tout seul qui travaille là-dessus non plus.
Ben, comme j'ai dit au début, c'était basé sur Donjons & Dragons durant la première année. Et après la première année, quand j'ai réalisé que ça devenait sérieux, je me suis réalisé qu'il y aurait peut-être d'avoir des problèmes un jour si j'allais rester avec Donjons & Dragons. Donc, J'ai tout mis ça à terre. On a recommencé à zéro. Ben, j'ai recommencé à zéro. À l'époque, j'étais tout seul là-dessus. Et je me suis mis à penser que l'univers de fantasy est bâti petit à petit. Avec les années, ça s'est accumulé. La communauté alentour s'est accumulée. Et eux-mêmes ont participé. Et il y a des gens comme ma femme, à ma droite présentement, qui était une de mes lectrices à l'époque, qui participait sur le forum, qui dessinait des fanarts de mes personnages. Et un jour, j'ai offert de colorier mes pages. Et elle a mes colorier pages. Et c'est comme ça que...
Mais Yann, t'es pas en train de me dire que c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés?
Oui.
Ah oui?
Oui.
C'est assez incroyable, rencontrer comme ça un couple dans le webcomics, dans la création.
J'ai offert un emploi et je voulais être sûr que ça marche. Donc, j'ai fait venir 3 employés potentiels au Québec, montrer quoi ça ressemblait, que c'était pas l'article. Et Marie était la seule qui est restée.
C'est la seule qui a survécu à l'hiver québécois?
Oui, la deuxième a trouvé ça trop terrible. Français et l'hiver... Hop, hop, elle est repartie.
Ah, je me demande pourquoi, c'est pas à cause des 5 mètres de neige qu'on a sûrement.
Oui. Par la suite, bien sûr, j'ai eu beaucoup plus d'employés, mais côté temps plein, je dirais que j'en ai 2 au Canada. Le reste, c'est tout via Internet. J'en ai 13 employés à temps partiel, des artistes qui participent dans les sections payantes, surtout comme 3 Indonésiens. J'ai un Chinois, j'ai un Irlandais, j'ai un Anglais d'Angleterre, États-Unis. Vancouver, Calgary...
Donc, quand même plusieurs personnes. C'est pas juste toi-même que tu fais vivre avec ça. Il y a d'autres gens qui gagnent leur vie grâce à ton produit que tu as imaginé, que tu as pris la peine de faire parce que tu t'es dit « je suis capable de faire ça ».
Oui, je dirais ceux qui gagnent leur vie avec ça, on est 6.
6 où? Au Québec?
Non, au Québec, c'est juste moi et Marie. Il y a Lucinda Calgary, qui, quand elle participe, c'est tremplin. Et oui, elle peut gagner sa vie avec ça. Et les 3 autres, c'est indonésien. Ceux qui participent le plus dans les sections payantes travaillent à temps plein à partir de chez eux.
Donc, il y a seulement 6 webcomics à travers le monde?
Ah non, je parle de mes employés.
OK, de tes employés. Okay,
côté webcomic au Québec, je ne sais pas si quelqu'un d'autre gagne sa vie avec ça. Je sais qu'aux États-Unis, il y a Penny Arcade et PVP Online qui gagnent leur vie.
Il y a aussi... Il y en a quelques gros aux États-Unis à travers le monde, mais c'est quand même pas quelque chose qui est... On calcule pas ça en milliers de personnes non plus. Là,
c'est quelques personnes. C'est une grosse bataille pour se faire la place. C'est comme être un acteur ou... Écrire des livres. Au Québec, écrire un livre, personne ne va gagner sa vie et il faut vraiment percer le côté international.
À l'étranger. Justement, le webcomic, dans ce cas-ci de Drow Tales, il est en anglais. J'imagine que le marché francophone n'était pas assez gros pour pouvoir subvenir aux besoins.
Non, et garder, juste mettre à jour à chaque jour est un gros travail, une responsabilité. Et quand on avait essayé de traduire dans plusieurs autres langues, on s'est réalisé que toute cette charge hebdomadaire doublet, triplet, quadruplet. On a laissé faire, on est resté sans anglais. Mais le prochain webcomic que je vais faire va être anglais-français.
Anglais-français, parce qu'effectivement, traduire quelque chose, si on veut bien le traduire, c'est pas évident. Il faut s'assurer des tournures de phrases, qu'on garde le même sens. Il y en a trop déjà des traductions. Moi, je me rappelle dans le temps, date de, il y a des années de ça. J'avais déjà lu un roman qui est de Forgotten Realms dans l'époque, puis en français. On arrivait dans le livre, puis on attendait qui, mais c'était une traduction qui avait traduit dans l'anglais, qui était un hibou qui faisait hou.
Ouais.
Donc, bon, c'est sûr, certain que de nos jours, les traductions sont meilleures, mais c'est beaucoup de travail quand même, donc je peux comprendre. Effectivement, pour pouvoir gagner sa vie, on peut pas aller avec un marché francophone, il faut y aller avec un marché international, et ça, à ce moment-là, c'est l'anglais qui prime.
Il y a beaucoup de gens qui se sont offerts pour traduire en français, mais ce qu'ils réalisent pas, c'est que, un, comme tu as dit, c'est pas parfait, et si ça ne fait pas ce que moi j'imaginais, ça ne passe pas, et ça quand même double notre charge de travail, même si c'est eux qui traduisent. Et on a déjà 5000 pages sur le site web et traduire tout ça. C'est une charge de travail assez grosse.
Traduire 5000 pages, et c'est pas, c'est quand on parle de pages, c'est des textes complets, c'est des histoires, c'est des noms, donc c'est quand même assez complexe.
Et toutes les bulles doivent être modifiées pour aller avec la langue française, donc, qui peut être plus longue ou plus courte.
Donc, modifier encore là l'image elle-même. Donc, vraiment, Drow Tales, qui est un succès québécois, il y en a d'autres, mais c'est un des gros succès québécois, un des gros succès sur le web tout court du côté du webcomic. Donc, c'était Yann qui était ici pour nous en studio, avec Mary aussi, qui est là, tranquille dans son coin, qui me regarde avec des gros yeux en ce moment.
Marie, qui est la coloriste de la bande dessinée principale.
Coloriste, c'est pour les gens qui l'ont jamais vu, c'est quelque chose qu'on va mettre un lien sur le site de Puissance Maximale. Allez voir, c'est un webcomic de qualité. Le texte et ses pensées, l'histoire, l'univers, c'est quelque chose qui était pensé, qui a de l'évolution. Et côté visuel, du fait que c'est plus technologique, a un aspect visuel très marquant et qui est très très beau et très très bon. Donc, que je suggère à tout le monde. Donc, merci d'avoir passé à nos studios.
Merci de m'avoir invité.
Et on espère voir encore plusieurs chapitres et ton nouveau projet éventuellement.
Merci beaucoup.
Donc, drawtales.com tout simplement pour les gens qui veulent aller voir ça.
Ou draw.ca.
Ou draw.ca, encore plus simple. Un beau web comics québécois qui fait beaucoup de succès. Alors, on va écouter maintenant une pièce. Ça va être les Bleu Pelouse, un groupe de Québec qui va faire You Rascal You. Vous êtes à puissance maximale.
With 6 feet over your head, I'll be glad when you're dead, you rascal you. I wonder what haven't you got, you rascal you. I wonder what haven't you got, you rascal you. I wonder what haven't you got, what you got a lot. I'll be glad when you're dead, you rascal you. Something else you're trying to steal. I'll be glad when you're dead, you rascal you. Take that thing. I'll be glad when you dead.
Alors, toujours en direct de la Fiesta Ludique, en direct de Montréal, dans cette fin de semaine du 7 et 8 novembre 2009. Nous sommes avec Christian Côté, qui est un maniaque du jeu Formula D. Si vous connaissez Formula D, bien, c'est la nouvelle version de ce jeu-là. Et je viens d'assister à une partie quand même assez incroyable sur un plateau géant. Et on va en parler avec Christian. Christian, merci d'être à puissance maximale.
Oui, bonjour Vincent.
Alors, Christian, juste pour te dire, pour te demander premièrement, le jeu de Formula D, peux-tu nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste?
Il s'agit d'un jeu de course automobile, principalement sur le milieu de la Formule 1. Il y a aussi une variante pour le street racing, donc pour le NASCAR. Donc, c'est un jeu qui se déroule assez bien, dans le sens qu'on doit lancer des dés et puis parcourir les différents tracés des circuits qui sont disponibles. Il y a des virages aussi où on a des arrêts obligatoires à faire. Donc, c'est un jeu de stratégie. On doit vraiment considérer toutes les options pour minimiser les dommages à nos véhicules et puis franchir la ligne d'arrivée le plus rapidement possible.
Quand tu dis stratégie, parce que tu parlais de rouler des dés, ce n'est pas seulement que rouler des dés, parce qu'on a également un plateau sur lequel on doit gérer une transmission, gérer notre voiture. Donc, c'est là que tu parles de stratégie.
Effectivement. Donc, notre véhicule est composé de 6 différentes catégories. Donc, on a les pneus, les freins, transmission, carrosserie. On a la suspension et puis le moteur. Donc, il faut gérer tout ça pour être sûr d'arriver aux lignes d'arrivée le moins endommagé possible. Et puis, c'est ça qui est bien l'enjeu à gérer.
C'est une piste qui est divisée en trois lignes, donc trois lignes de rectangulaire tout simplement, qui fait que notre voiture avance de différents nombres de cases. Il y a également des passages rapides et des passages moins rapides sur le jeu.
Oui, effectivement. Donc, il y a des grandes lignes droites où on peut lancer un dé de 30 qui peut nous faire avancer rapidement. Mais il faut aussi considérer que les virages nous imposent de faire des arrêts obligatoires. Donc, il faut penser à rétrograder notre transmission pour ne pas succomber aux dommages au véhicule.
Puis, qu'est-ce qui fait que c'est un jeu acheté, selon toi?
Ben, en fait, c'est un jeu pour jouer à plusieurs, donc de 2 à 10 joueurs. Il y a même une variante où on peut jouer à 4 ou 5 joueurs et en possédant l'écurie au complet. Donc, en utilisant 2 véhicules de la même couleur, donc par joueur. Donc, c'est un jeu qui devient extrêmement intéressant à jouer. Lorsqu'on joue la version complète de 2 tours, on peut arrêter au puits, donc revitailler en différentes catégories de notre véhicule, augmenter changer nos pneus, améliorer nos freins. Donc, on peut ensuite entamer le deuxième tour avec un véhicule moins endommagé.
Puis est-ce qu'on doit être absolument un amateur de course automobile pour jouer à ce jeu-là?
Non, pas du tout. C'est un jeu très accessible à n'importe quel public. Donc, n'importe qui a un petit intérêt pour la course automobile va y trouver son compte. Ou même ceux qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour l'automobile vont trouver une stratégie intéressante à développer avec leurs amis.
C'est parfait. Merci beaucoup, Christian Côté.
Merci beaucoup, Vincent.
Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale.
De retour à Puissance Maximale, nous sommes accompagnés de Christian Lacroix.
Hein? Pas de jingle? Oh, là, je suis déçu.
Ah, j'ai oublié.
Ah, c'est vrai.
Faut toujours me le rappeler.
OK, peut-être plus tard.
À la fin.
OK, donc c'est ça. Je vais vous parler du jour-jeu, entre autres, quelques minutes, là, parce que c'était la première édition en fin de semaine dernière, donc à l'Apocatière, du jour-jeu. Et donc, c'était dans le centre Bombardier. Et c'est la première fois que j'allais là. C'est vraiment une grosse aréna. C'est un super bel édifice. C'était parfait. Évidemment, il y a toujours des impondérables dans ce genre d'événement-là. Ceux qui organisent les événements, vous le savez. Comme entre autres, on avait une compagnie de construction qui faisait son party de Noël à côté.
Ah,
alors,
okay,
donc, oui. On a entendu beaucoup de la belle musique. Et c'est pas évident. On a essayé le soir de commencer une partie d'Android. Première partie. Fait que là, t'essaies de lire les règles. On a abandonné.
Bon. Pour les joueurs de jeux de plateau, c'est très important le silence.
Ça prend un minimum, là, quand oui. même. Là, bon. Et finalement, on a joué au Loup-Garou de Tiercelieu. Il y a eu un tournoi de Dominion qui était là. Il y avait un peu d'animation, évidemment. Mais ce que j'ai aimé, comme dans tous ces petits événements-là, dans des petits milieux comme ça, c'est la convivialité. C'était vraiment l'accueil. Les organisateurs étaient accueillants. Et tout le monde se parlait. Donc, on était peut-être une centaine à la fois. Mais ça a été quand même un bon truc. J'ai été étonné du succès quand même. Et ils ont fait leurs frais. Et même plus. Oui, apparemment, ils m'ont dit. Donc, ça va être à voir pour l'année prochaine.
Il y avait à peu près combien de gens, à peu près?
C'est sûr que nous, on est arrivé l'après-midi. Ça a commencé à 9h le matin, c'était terminé à 1h du soir. Je dirais en tout, c'est une estimation, là. J'ai pas eu les chiffres officiels, mais d'après moi, il y a peut-être eu environ 150 personnes. Je sais pas,
quand même, pour la première édition, c'est très bon. Hein?
Oui, ça y avait, les tables étaient bien occupées. Fait que c'était parfait, vraiment.
J'ai l'impression qu'il y a une grosse demande dans les jeux de plateau, là, à Rive-Sud. Il y a beaucoup de joueurs de jeux de plateau.
Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est un beau phénomène hein, depuis les journées ludiques, la fiesta ludique à Montréal. Puis là, ça se répand. Et j'espère que le plus de villes possibles vont pouvoir commencer à faire ça parce que c'est vraiment, vraiment agréable. Ouais. Mais il y avait très peu de jeunes. Il n'y avait pas de volet jeunesse. Là. C'était vraiment juste la moyenne d'âge, c'est peut-être à 28-30 ans.
OK.
Quelque chose comme ça. Donc, c'est très, très bien. C'est une belle journée.
C'est ce qu'on appellerait des hardcore gamers qui étaient là.
Oui, vraiment, oui. Puis moi, en tout cas, j'ai trouvé... Moi, juste en arrivant, tu sais, tu tapes quand même 1h30 de route, presque, tout ça. Puis là, t'arrives... Moi, j'ai tombé sur Mare Nostrum, un des jeux mythiques là, que je cherche depuis... avec l'extension là, en français. Là, tu prends ça délicatement, t'as les gars, vite, on s'en... Alors, donc, c'est juste pour ça que j'avais mon... Ça coûtait 10$. Là,
une des raisons pourquoi il n'est pas souvent ici, il faut qu'il travaille pour payer tous les jeux.
Oui. Ah, c'est une autre affaire. Mais c'est ça. Donc, ça, c'était mon petit volet... jour-jeu, la POC. On a donc un grand succès, puis bravo et longue vie. Et merci à Eric et Martin, là, les organisateurs. Super beau travail. Et peut-être je continuerai les quelques minutes qui me restent pour parler de... Je sais qu'on en a parlé à la
semaine... Légèrement.
Ouais, on a annoncé.
Survolé.
C'est ça. Dragon Age Origins. Donc, moi, je l'ai acheté en ligne, et puis j'ai downloadé, téléchargé ça, et j'ai joué à ça. J'ai tout fait les histoires d'origine, toutes les possibles et impossibles. C'est vraiment, vraiment, en tout cas, bien fait. C'est un vrai jeu de rôle. Moi, ma crainte, c'est quand on regardait les aperçus, c'était juste du...
C'est un Diablo.
Ouais, ouais, t'as le bashing, t'as du sang qui revole, puis le next. Puis j'étais mort, c'est pénible. Là. Mais non, vraiment, c'est clair qu'il y a beaucoup de ça, quand même. Là. Mais les histoires sont vraiment intéressantes, surtout au début, justement, la fameuse origine. Bon, ça vaut la peine de tous les essayer, au moins la première partie. Puis c'est... bon, certains disent que les graphiques sont mauvais. C'est faux. C'est quand même très... Ben, c'est un jeu de
rôle. C'est pas vraiment important. Hein?
Ouais, on faut pas comparer Call of Duty Modern Warfare 2 avec un jeu de rôle. Là. C'est pas la même... en tout cas, mais c'est quand même très bien. C'est ce qui aurait dû être Neverwinter Night, je pense. T'sais, parce qu'avec une histoire à la Baldur's Gate 2, donc beaucoup de possibilités, un système de jeu très simplifié. C'est leur système à eux. Donc, il y a trois classes, il y a quelques statistiques... quelques talents, mais c'est beaucoup plus facile de monter un personnage, c'est moins complexe que Donjons & Dragons 3.5.
Moi, de façon générale, les commentaires que j'ai eu de gens dans mon entourage, que j'ai vu sur l'internet, c'était un bon jeu. J'ai eu un commentaire négatif d'une personne qu'est-ce que la personne avait moins aimé, c'est que lors des combats, on était toujours rendu, on pesait sur pause pour savoir qu'est-ce qu'on était pas faire. C'était un point négatif du jeu.
Ah ben non, moi je trouve que ça dépend du style de jeu que vous aimez. Quelqu'un qui aime un shooter ou qui aime un RTS, stratégie en temps réel ou quoi que ce soit, il va s'emmerder. Mais moi, j'adore mes jeux, c'est tour par tour. Alors, et j'aime ça, moi, la tactique. Donc c'est vraiment tactique.
Hein, comme les bons vieux jeux là, de Baldur's Gate, Neverwinter Night avec le pause, tu regardes où est-ce que tu s'en vas, tu te positionnes.
Positionne tes gars. Des fois, t'as une gang de guerriers qui sont en plein. Puis là, ton mage se prépare à faire une grosse boule. Le pote, plaquez-vous. Les gars, s'en vont. Puis là, là, des fois, j'ai mal timé mon affaire.
Parce que Christian, t'es un grognard. Toi, t'es un vieux de la vieille comme moi.
Oui,
voilà.
Je suis pas jeune. Donc,
tour par tour.
Oui, puis j'aime ça, t'es prendre le temps. Puis là, t'es content quand tu réussis à placer ton. Et c'est vraiment. Il y a des moments, comme par exemple, si tu joues un rogue, là, je sais pas, une espèce de petit
vendeur. Un roublard.
Un roublard, voilà, en français, en tout cas. J'ai la version anglaise, malheureusement. Et donc, t'es super rapide. Puis c'est tellement quand tu bats contre les gars avec des grosses épées là, ou des gros marteaux, le temps qu'ils craignent, t'as le temps de faire le tour, d'aller derrière, là, de se taber. Là, t'es de t'en revire, puis recommence. Tu fais le tour, t'amuses comme ça. C'est... mais donc, ne jouez pas un guerrier. En tout cas, moi, j'ai beaucoup plus de plaisir avec les mages. Mais jouez-les tous, là, évidemment. Faites donc ce que vous voulez, moi, Dieu. Mais en tout cas, vraiment, les mages et les rogues, là, wow, c'était vraiment un plaisir de.
Dragon Age,
c'est ça? Dragon Age Origins.
Donc, vraiment un jeu pour les vieux amateurs, comme les vieux Dragon Warrior, Final Fantasy, tour par tour avec une histoire. Oui. Mais là, à ce moment-ci, avec des plus beaux graphiques, bien sûr.
Oui, mais on peut le jouer en temps réel en passant. Aussi. Parce que vous avez un système de tactique. Et c'est très bien fait. Vous pouvez acheter des éléments de tactique. Et c'est comme la programmation, carrément. Puis c'est très bien fait. Tu peux mettre, si un ennemi attaque tel personnage, à ce moment-là, switch à telle affaire, va le défendre, mais attaque. En tout cas,
tu fais des conditions de réaction.
Oui, conditions de. Puis c'est très, très. Je regardais ça, tabarouette. Il y en a des conditions. Puis des. Donc, quelqu'un qui veut s'amuser là-dedans, puis qui veut tout programmer ses persos, puis les laisser aller, tu peux juste jouer ton bonhomme principal en temps réel. Moi, ça m'intéresse moins, mais je suis plus genre. Je veux optimiser tout.
Bon, peux-tu jouer le jeu avec d'autres personnes en même temps? Quoi?
Il y a une bonne question. Je pense que oui. Il y a un côté. Mais ça, je. Mais moi, je suis un autre affaire, grognard. Là. Moi, je suis plus single player. Tu sais, je joue tout seul à mon coin. Mais. Je crois qu'il y a un volet. Mais c'est plus axé.
C'est un jeu.
Jeu classique, là, simple joueur.
Donc tu le recommandes pour tout amateur, j'imagine.
Oui, non? Oui. Et la beauté de la chose sur. Apparemment, la version console, les versions console sont un petit peu moins parce qu'il a été designé pour le PC. Donc les menus, tout ça, ça va très bien sur le PC. Apparemment, que ce qu'on m'a dit, la version Xbox puis PS3, les graphiques, premièrement, sont un peu plus faibles et l'interface est beaucoup plus dérangeante un peu.
Et moins user-friendly, là, dans le fond.
Alors qu'avec la souris, tu sais, puis les raccourcis clavier, t'as une souplesse que t'as pas sur les consoles. Donc, on le recommanderait peut-être sur le PC. Aussi, l'expansion sur le PC, il va y avoir des gens qui vont créer, il va y avoir un module de création. Alors, donc, dans quelques mois, ça va être beau.
Donc,
voir
comme Neverwinter Nights, qu'est-ce qui était sorti? Des modules créés, des mondes persistants, des choses comme ça.
Oui, il y en a qui ont fait Loup Solitaire, par exemple. Ils ont tout refait, presque en tout cas, une partie de la série. Alors, ça promet, je pense, ça va être vraiment intéressant. Alors, donc, Dragon Age, 9.8 sur 10.
9.8 sur 10, la critique de Christian Lacroix. Dragon Age.
Ouais, je pense que c'est le jeu de. Ben, il y a Call of Duty, là, Modern Warfare 2 aussi, qui est une grosse sortie. Il y en a d'autres qui s'en viennent la semaine prochaine, Assassin's Creed 2, il y en a d'autres, là. Mais je pense que celui-là, en tout cas, il est...
Dragon Age. Ben, ouais. Je te remercie, Christian Lacroix. Donc, une petite critique de jeu, et aussi, on parlait des jours jeux, la première édition de cet événement-là. On va leur souhaiter bonne chance.
Peut-être 30 secondes, par contre. J'ai fait pas la gaffe, mais les fameuses éditions de luxe, tu sais. Moi, j'étais sur Direct to Drive, c'est un site où on peut acheter des jeux en ligne. Bon, là t'avais deux options. Tu avais t'as comme le kit de base, t'as le Deluxe, t'as Ultimate. Là, moi, je me paye la grosse à Cadillac. Ouais. Mais là, t'essaies de télécharger les petits bonus, puis ça n'a pas marché. Fait que là, j'y vois dans mon compte, il est, mais pas dans le jeu. T'sais. Fait que là, en tout cas, bref, il y a tout un bémol là-dessus, là, sur les...
Peut-être un cas unique ou ça semble être un cas plus répandu?
J'ai entendu quelques personnes qui ont eu des problèmes. Donc, en tout cas, moi, si c'était à refaire, je prendrais la version de base parce que le petit casque, telle affaire, là. Il y a une armure, par contre, qui peut servir dans Mass Effect 2. Ça, c'est intéressant. Mais est-ce que ça vaut 24 piastres? Je pense pas.
Ouais, on peut se le demander. Donc, on va faire juste un petit indicatif et on revient tout de suite après pour la conclusion de cette émission. Vous êtes à puissance maximale.
Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute puissance maximale.
Et juste quelques mots pour dire qu'est-ce qui s'est passé samedi dernier à la Warp Zone, qui est en fait un événement jeu rétro. Fait en union, en communion avec Puissance Maximale, La Planque et La Libérée Pantoute. Eh bien, donc, c'était un événement qui commémorait, dans le fond, les jeux rétro des années 90, là, avant l'époque du CD. Et donc, il y avait beaucoup de Nintendo, il y avait beaucoup de Super Nintendo, des Atari, des vieilles choses, finalement. La réaction a été très bonne. Beaucoup de participants, environ, si je me souviens bien, là, environ 200 personnes.
Un bon succès.
Ils sont venus un jeudi soir à la librairie, au studio P pour jouer.
Et tard le soir non plus, là, c'était pas de bonne heure, ça finit jusqu'à très tard pendant la nuit.
Ça a commencé à 5h du soir et ça a fini à 3h du matin. Et il y a des gens, quand j'ai quitté vers 1h du matin, il y avait encore des gens qui étaient là pour écouter les vidéos de Angry Video Game Nerd. Et je franchement, j'ai jamais vu des gens aussi passionnés que ça de jeux vidéo, c'était beau à voir. Et là, donc il y avait évidemment toutes sortes de bébelles qu'on pouvait essayer, dont le fameux Power Glove. Et là, je me suis amusé à fond. À un moment donné, on a fait un concours pour voir si quelqu'un était capable de finir le premier niveau de Mario World avec le Power Glove. Et je suis le seul à avoir réussi.
Ouh,
à force de persévérance.
Un vrai gamer. Ouais.
C'était quelque chose.
Mais en passant, il ne faut pas tenir une bière avec le Power Glove.
Non, ça va. Ça aide non, pas. Oublie ça. Juste ça. Essayer sans tenir à rien, c'est déjà tough. Fait que si on essaie de boire une bière en même temps, bonne chance.
Prenez l'autre main
au moins. Et essayez de ne pas renverser la bière sur le Power Glove, sinon il va y avoir des étincelles. Sinon, le jour d'après, le jour suivant, il y avait le vendredi, il y avait un Zombie Walk à Québec. Le premier Zombie Walk à Québec. Et on m'a dit que ça arrive à chaque année, il y a des Zombie Walk à Trois-Rivières et c'était le premier à Québec. Et grande réussite là aussi, il y avait environ 200 personnes, on m'a dit. Il y avait les 50 premiers zombies qui sont allés à la Ninkasi ont eu une bière gratuite.
C'est payant d'être zombie.
On salue les gens de la Ninkasi qui sont des véritables gamers, qui savent valoriser les joueurs et les encourager. Donc, bravo aussi aux gens qui ont organisé le Zombie Walk à Québec. Il y a des vidéos de ça sur YouTube, là, si je ne m'abuse. Allez voir ça. Sinon, bien, c'est la fin de Puissance Maximale. On remercie les invités.
Oui, on remercie Yann qui est venu au studio pour nous parler de son webcomic de Drought Tales et qu'on espère beaucoup de succès.
Yann et Marie. Et on remercie Guillaume Forand.
Fait plaisir.
Christian Lacroix.
Oui, salut.
Et au micro, c'était François G. Couillard. Et les jeux qui sont sortis cette semaine rapidement, Call of Duty 2, Modern Warfare 2, Final Fantasy 11, Ultimate Collection, For the Glory à Europa Universalis Game, Jonathan Kane, The Protector, Pro Evolution Soccer 2010, Star Trek D&D et bien d'autres. La source est à jouer.com. Allez voir ça pour voir toutes les sorties de cette semaine. Et sinon, on vous dit bonne semaine. C'est vrai, il y avait un reportage aussi de Vincent Langlois, faut pas l'oublier.
Oui.
Et donc, à la semaine prochaine.
Amusez-vous.
It's D&D. Never kissed a lady before.
Nope.